Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Alternative Football.
Salut Edouard, salut Mathieu, c'est La Conscience qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une bonne nouvelle, ça y est, on tient enfin notre premier invité pour cette saison 4. C'est Fabrice Boquet, le tout nouveau directeur général de l'OGC Nice. Il est disponible, il passe par Paris, donc j'ai calé un rendez-vous au studio et je vous refais un petit topo. On avait reçu son livre à la rédaction cet été. Il s'appelle « L'importance, c'est les trois points ». Et en gros, c'était un peu un résumé de la quête d'Alternative Football, à savoir comment expliquer que des brillants chefs d'entreprise s'aventurant dans le foot éprouvent les pires difficultés pour faire réussir leur club. Et en fait, lui, il revient notamment sur son parcours. Il est passé par la direction générale de Lorient et il revient sur son parcours aussi plus globalement. Il sort d'école de commerce, il a fait HEC, il a travaillé dans la banque d'affaires Lehman Brothers, il a travaillé pour McKinsey, la société de conseil. Et donc on se disait que ça serait intéressant de s'interroger à travers Fabrice sur ces nouveaux dirigeants qui sortent des grandes écoles de commerce, qui ont plutôt un parcours pour travailler en banque d'affaires et qui finalement finissent dans des clubs de foot. Donc savoir un peu ce qu'ils apportent, ou non, leur vision, leur méthode. Voilà. Donc, c'est la bonne nouvelle du jour. Et puis, maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. À toutes.
Eh bien, ça tourne.
Ah ben, ça tourne. Ah ben, salut. Salut, Fabrice.
Salut, Edouard.
Merci d'être là.
Salut messieurs. Salut. Fabrice, très heureux de te recevoir. Pour, je le disais en off, mais pour la reprise.
Pour la reprise, pour comment la sont passées ces vacances
Bah écoute, très bien, j'ai l'impression que c'était il y a des années les vacances.
C'est vrai.
Mais très heureux de vous retrouver messieurs et de te rencontrer aujourd'hui Fabrice pour le numéro 25.
Si 25,
je dis, 25 si 24. Je dis pas de bêtises, et donc le premier de la saison 4.
Le premier et pas le dernier.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Alors, on va rentrer dessus dans le vif du sujet. Fabrice, je ne vais pas te demander de te présenter clairement, mais tout simplement ton lien avec le foot.
Mon lien avec le foot, je dirais pas qu'il vient du biberon, mais presque. De toute façon, mon père a toujours adoré le football. Il m'a mis dedans dès qu'il était tout petit. Dès que j'ai pu, je pense, mettre un ballon dans les pieds. Voilà, donc j'ai essayé de devenir footballeur pro, comme beaucoup. Je sortirai pas l'excuse de la blessure pour dire pourquoi j'ai pas réussi.
Mais pas moins, les croisés.
Non, je me suis fait le croisé.
C'est vrai.
Ah ouais, mais c'est malheureusement ou heureusement, pas pendant le début, donc plutôt vers
okay.
la fin.
Okay.
Voilà, donc je peux pas sortir. Malheureusement, ça fonctionne pas avec le timing. Mais voilà, mais au moins j'ai tenté. Et puis voilà, et puis pendant tout mon parcours, j'ai été joueur, j'ai été éducateur aussi dans un club en région parisienne, surtout de gardien de but, le meilleur poste.
Tu étais gardien de but ?
Ouais, j'étais gardien de but.
D'accord.
On m'a mis là-bas, c'était mieux.
Pourquoi ? Parce que ça te permettait d'observer un petit peu tous les déplacements.
Je sais pas. Mon père était gardien de but aussi. Ah, je sais pas si c'est un lien aussi avec ça. C'est... Mais en fait, j'aimais ça. Et puis, quelle que soit la surface du terrain, j'en ai gardé d'ailleurs quelques stigmates. Je m'étais bien plongé un peu partout.
Les fameux stabiles des années 90. Je pense qu'on, effectivement, ceux qui ont joué à ce poste-là s'en souviennent pas mal. Et du coup, ce lien avec le football, donc, Edouard te posait la question. Il commence par le jeu, par le terrain, etc. Mais tu es aujourd'hui connu et reconnu pour ton métier de DG, qui a commencé à Lorient, mais ça n'a pas été ton premier poste à Lorient, si je dis pas de bêtises. Comment ça démarre pour toi la carrière professionnelle, enfin, pas professionnelle sur le terrain, mais professionnelle dans le foot
Oui, effectivement, c'est ça pas. En fait, c'est pas un long fleuve tranquille parce que, et d'ailleurs, je suis souvent contacté et par beaucoup de jeunes qui ont envie de faire carrière dans le sport, dans le football et dans le sport. Et j'imagine que tu rigoles, j'imagine que c'est pareil pour vous. Et en fait, c'est pas toujours simple de rentrer dans le secteur parce que même si c'est un secteur médiatique, ça reste une constellation de petites PME. Et c'est beaucoup de fois en fait un secteur de réseau. Donc c'est pas toujours simple. Donc il faut aussi avoir à un certain moment aussi un peu de réussite. Mais il faut savoir la provoquer également, cette réussite-là. Donc moi j'ai démarré, enfin il y a eu plusieurs étapes. J'ai fait un stage quand j'étais étudiant avec un club pro, donc c'était avec l'AS Saint-Etienne.
Ouais.
Donc ça c'était en 2005 ou 2006, non c'était en 2005, mais ça s'est fait par hasard en fait, j'ai postulé dans beaucoup de clubs, et je crois même que j'avais pas postulé à l'AS Saint-Etienne, et je sais pas par quel miracle mon CV il a atterri sur le bureau du directeur général de l'époque, qui était Vincent Tonkiong, et qui me propose de faire un stage pour l'AS Saint-Etienne et d'aller au Sénégal où il venait de reprendre un club. Et donc j'y suis allé pendant 2-3 mois pour faire un audit sportif et financier du club, et enfin j'ai débarqué comme ça, mais c'était une superbe expérience de voir comment fonctionnait un club pro et en particulier un partenariat avec un club à l'étranger. Et ensuite, je ne sais pas si vous voulez que j'en dans le détail, mais quand j'ai démarré à Lorient la première fois, c'était en 2009. Effectivement, à cette époque, je n'étais pas du tout DG, mais j'étais jeune à cette époque-là, j'avais 26-27 ans. Et je rejoignais Loïc Ferry qui venait de racheter le FC Lorient. Et en fait, on était en contact même avant qu'il rachète le FC Lorient. Je le connaissais d'avant. Et lorsqu'il me propose de rejoindre le FCL en tant que directeur financier, à l'époque, je m'occupais de la partie financière. C'était presque une opportunité qui arrivait par hasard parce qu'il n'était pas écrit que Loïc allait reprendre le FC Lorient. Mais d'une certaine façon, j'ai envie de dire qu'on provoque aussi un peu sa réussite. Le fait d'avoir été un joueur, d'avoir été éducateur, d'avoir fait un stage dans le sport et dans le football. Et donc, d'une certaine façon, on crée les conditions pour. Donc le conseil que je donne aussi souvent à ceux qui veulent rentrer dans le secteur, c'est il suffit pas d'être passionné, il faut faire des choses. Et souvent des choses qui vont au-delà de leur cursus pro, entre guillemets normal, et peut-être s'impliquer dans le football amateur, s'impliquer dans le sport amateur, avoir d'autres activités.
C'est ce que tu as fait au tout début, enfin, quand tu as dit que tu étais éducateur, tu as été éducateur à Montrouge.
Ouais, c'est ça.
Voilà, après tu as fait quoi après éducateur? Tu es resté à Montrouge ou alors tu as voulu de suite, je sais pas, être dirigeant dans ce club-là? Tu as eu des ambitions ou pas du tout?
En fait, j'étais éducateur à Montrouge en même temps que je faisais mes études en école de commerce. Ouais. Et puis ensuite, j'avais plus le temps d'être éducateur, malheureusement, parce que j'adorais entraîner les gardiens de but. C'était une expérience incroyable.
T'as que les gardiens de but. Hein.
Ouais, j'entraînais.
Mais c'est une secte ou quoi, les gardiens de but?
Comment?
C'est une secte, les gardiens de but? Entre le papa, toi,
c'est une famille.
D'accord, ok.
Voilà, c'est la famille, là. Non, mais oui et non. Et puis, en fait, pour être plus précis, j'ai commencé à entraîner une équipe au départ, okay. Mais je me suis rendu compte vite que c'était mieux avec les gardiens. Je me sentais plus épanoui, plus précis dans ce que j'avais envie de transmettre, et j'étais plus performant. Donc les gardiens de but, ça s'est fait assez naturellement, et à Montrouge, j'ai vécu vraiment des très très beaux moments avec une petite communauté de gardiens de but vraiment performante. Et ensuite, j'avais plus le temps malheureusement. J'aurais adoré continuer, hein, mais j'avais juste plus le temps avec mes études, je commençais à faire mes stages et tout ça. Donc en fait, ce que j'ai fait ensuite, c'est que je suis devenu trésorier de Montrouge pendant 2 ans. Donc j'ai été trésorier du club.
C'est important ce que tu dis, ces expériences-là, t'es pas arrivé de suite dans le milieu professionnel en disant bon voilà, moi j'aime le foot, donnez-moi un poste. Donc tu as eu des expériences dans le monde amateur, tu as mangé ton pain noir comme on dit. Peut-être pas nécessairement
c'était
noir.
C'était pas du tout du.
Mais en fin de compte, t'as eu des expériences.
C'était de la bonne baguette.
Ouais. Non, mais c'était génial. Moi, je prenais ma voiture, j'étais étudiant, et les week-ends, j'allais voir les matchs des gamins partout en région Île-de-France. J'adorais ça. Et puis, en tant que trésorier, dans un club amateur, tu fais pas ça pour l'argent, t'es bénévole.
Ouais.
Donc, je me souviens, j'étais avec ma petite imprimante et je faisais les factures et tout ça. C'était ça souvent mes week-ends d'étudiant. Hein. Ouais. Mais j'adorais faire ça. C'était.
Ouais, comme job, il y a pire comme job étudiant.
Ouais,
mais
il y a un
truc que tu dis et qui est très vrai, je pense qu'il n'est pas assez répété, c'est le côté PME des clubs de foot qui est extrêmement vrai, et le décalage, et tu en parles aussi dans le livre, entre l'attention qu'on porte à ce secteur-là, pour les raisons qu'on connaît, parce que c'est du sport professionnel et qu'il y a des fans et que forcément ça polarise beaucoup d'intention et d'intérêt, et la taille réelle de ces boîtes-là. Et même leur chiffre d'affaires, si on les compare aux boîtes du CAC 40. Et la raison pour laquelle je relevais la question de la PME, c'est que forcément, une PME, de par la taille, ça s'organise de manière différente d'une grande société. Et tu dois travailler sur la responsabilisation des gens, leur donner, les aider dans l'accomplissement des tâches. Et ça, c'est des choses qui vont revenir beaucoup aujourd'hui, qui m'ont beaucoup intéressé dans ton propos. Tu voulais dire quelque chose?
Oui, c'est une question de vision. Moi, je fais le distinguo entre investissement et spéculation. C'est le temps, la notion de temps est différente entre long terme et court terme. Et là, dans le football moderne, il y a une tendance à spéculer plutôt qu'à investir. Et je pense que tu expliqueras un petit peu plus ta façon de voir voir la chose. Est-ce que tu spécules, tu es un spéculateur ou tu es un investisseur?
Ouais, non, écoute, le football, de toute façon, je pense que c'est et en particulier les clubs, je partage ta croyance, qui est celle qu'effectivement, on peut gagner de l'argent dans le football. Après, est-ce que c'est l'investissement le plus sûr de tous quand tu compares avec tous les secteurs confondus? On peut se poser plus de questions, et là, je partage ce questionnement très, très clairement. Par contre, le fait d'avoir une croyance en disant, mais de toute façon, dans le football, on ne peut que perdre de l'argent, ça, je n'y crois pas. Ouais. Ça, je n'y crois pas. Et même, j'ai envie de dire, c'est difficile de donner du sens à son métier en tant que dirigeant de club ou dirigeant de PME. Parce que dans n'importe quel autre secteur, t'es dirigeant de PME et t'arrives et le premier truc que tu dis, actionnaire, de toute façon, je suis là, mais si on perd de l'argent, c'est pas grave. Ouais. Bah, tu restes pas très très longtemps, de toute façon.
Oui, ça n'existe pas.
Voilà. On te donne pas de l'argent.
Voilà. Exactement. Par contre, ce que je pense, c'est que toute la partie économique, c'est une conséquence et pas une cause. C'est-à-dire que tu arrives pas dans un club en te disant, elle a notre objectif, c'est de maximiser la rentabilité. Si tu rentres dans ça, peut-être tu rentres plus dans de la spéculation. Et je pense que tu oublies ta nature même qui est d'être un club de foot, en fait. Et la base, c'est d'être un club de foot. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une équipe sportive performante. Et quand je dis équipe sportive, je ne parle pas nécessairement que du professionnel. Je parle de l'ensemble des composantes sportives. Si ta performance sportive est bonne, derrière, tu vas pouvoir générer d'autres choses, des revenus, de la profitabilité ou autre, selon la gestion de ton club et quels sont les éléments que tu mets en place pour bien gérer cela. Mais la performance sportive, elle reste quand même centrale et il ne faut pas l'oublier. Nous restons des clubs de football, et ça il faut pas l'oublier.
Et donc du coup, comment tu fais avec ton track record et ton background? Donc tu as fait une école de commerce, HEC pour la cité, et puis après tu as fait du consulting. Donc tout ça, c'est vrai que quand il y a McKinsey, c'est ça je crois?
Oui, j'ai fait McKinsey.
Voilà, je fais pas de pub, mais globalement, nous en tant que joueur, quand je vois tout ça, un jeune mec qui arrive, qui a fait HEC et qui a été dans un cabinet de conseil comme McKinsey, qu'est-ce qu'il va apporter? C'est la première question pour essayer de développer une culture de performance.
Oui, oui, tout à fait. Surtout quand tu arrives effectivement avec ce type de profil, entre guillemets, ça peut faire un peu peur. En disant,
Il y a ton âge aussi,
c'est ça. Oui, il y a aussi ça. Et je pense que la chose la plus importante quand tu arrives quelque part, c'est d'écouter. En fait, c'est t'adapter parce que tu viens d'un environnement différent, même si. Enfin, j'ai toujours beaucoup. On en a déjà parlé, le football, j'ai toujours aimé ça. Et je pense avoir ma propre sensibilité autour de ce que représente un club. Mais néanmoins. S'adapter, c'est essentiel. Et c'est pas seulement s'adapter au fait d'arriver dans un club de foot, mais c'est aussi s'adapter à ce que représente ce club au niveau du territoire où tu es. Parce que l'identité du club, elle est juste essentielle. Et ça aussi, il faut être capable de la comprendre. Et moi, par exemple, quand j'arrive en Bretagne, je suis pas breton à la base. Et la première question qu'on me pose, c'est est-ce que t'es breton? Donc, c'est normal, parce que c'est un territoire qui est passionné par sa culture. Et donc, ce que tu fais quand tu y arrives, t'écoutes, tu te tais et t'apprends de te nourrir de ce territoire-là. Et tu comprends l'importance dans la stratégie club qu'il doit y avoir avec l'identification, avec les valeurs du territoire.
T'es pas breton, mais t'aimes le foot.
Oui.
Donc c'est ça, la culture foot, c'est ce qui te permet de te faire accepter quelque part dans tous les clubs où que tu ailles. Et après le reste, comme tu l'as dit, les particularités territoriales, ça, tu es suffisamment intelligent pour te dire, tu vas pas te comporter à Lorient comme tu vas te comporter dans ton futur club ou comme tu te comportes dans le club, tu te comporterais dans le club de Matt qui est le Paris Saint-Germain.
Et j'aime bien que tu dis que c'est mon club.
C'est ton club, mais il faut assumer, c'est ton club. C'est ton club.
Mais il y a effectivement un élément qui revient souvent dans Alternative Football et qu'on identifie comme quelque chose d'essentiel, c'est la culture. Que ce soit la culture du foot de manière générale ou la culture très locale d'un club, que tu lis, et je pense à raison, à l'histoire. Et c'est deux choses différentes, la culture et l'histoire d'un club. La culture, c'est le côté très territorial, la région, l'identité locale. Et l'histoire, c'est les joueurs qui sont passés par ce club-là. Et ça, c'est le bagage du club. Et l'amalgame que tu dois faire, toi, c'est comment des techniques qui viennent de l'entreprise, qui peuvent être perçues comme étant plus froides, comment elles vont pouvoir s'intégrer à la vie d'un club et à son histoire pour continuer cette histoire, c'est ça?
Oui, surtout que là, dans ce que tu viens d'évoquer, Mathieu, il y a une croyance qui ressort, qui est de dire technique d'entreprise égale à froideur.
Ouais.
Je ne partage pas cette croyance.
Moi non plus.
Je pense qu'il y a des entreprises qui sont extrêmement humaines, avec des cultures qui sont magnifiques et où les gens s'épanouissent parfaitement. Et parfois, on a tendance à opposer en termes de croyance et de se dire on est trop une entreprise, donc il y a de la froideur, il y a moins de chaleur humaine. Pas nécessairement. Pour moi, c'est pas vrai. Tu peux parfaitement avoir une entreprise, et il y en a des milliers dans le monde, où les gens sont ultra épanouis, où il y a du respect de la personne, du respect des salariés. Et en fait, c'est la culture que tu mets en place qui finalement va faire en sorte que tu, non seulement... respecte ton passé. Qui dit respecter, ça veut pas dire vivre dans le passé. Le terme que j'aime utiliser, c'est honorer le passé, mais également être capable.
La sémantique.
Être capable. Ouais, mais la sémantique, elle est très mais très importante.
Elle est déterminante.
Elle est vraiment importante. Et derrière, comment sur cette base-là, tu construis le futur. Parce que sinon, ça devient le risque que tu as si tu restes trop dans le passé. Finalement, c'est que tu te remets pas en cause. Et on a toujours fait comme ça. Et donc, et ce qu'il faut faire au contraire, c'est savoir qu'est-ce qui fait la force de ton club, qu'est-ce qui fait que ton club et dans sa stratégie va être aligné avec son territoire. Et ce que tu vas faire à Lorient, c'est pas pareil ce que tu vas faire à Lens, c'est pas pareil ce que tu vas faire à Strasbourg. Et donc, par rapport à ça, quand t'as compris, derrière, comment est-ce que tu vas adapter pour être capable de te projeter vers l'avenir ?
Tu as parlé de froideur, et ça m'a fait repenser à quelque chose. Effectivement, quand t'es dans un, quand tu joues au foot, t'es dans un club de foot. Normalement, c'est les émotions, c'est chaud. Pour moi, c'est chaleureux, c'est chaud. Il m'est arrivé d'être dans des clubs où c'était, y avait la même froideur qu'en prison. C'est-à-dire que c'était, les gens ne souriaient pas. Et après, ça devient un comportement. C'est-à-dire, le matin, tu allais à l'entraînement à 8h30, 9h moins le quart, tu tirais la tronche. Pourquoi ? Parce que tout le monde tire la tronche. Et pourquoi tout le monde tire la tronche ? Je sais pas. Alors que tu fais ce que t'aimes. Et donc, tu peux être dans un milieu comme le foot, tu dois toujours rire. Même s'il y a une défaite, l'analyser... comprendre un petit peu pourquoi, mais ça doit être du plaisir. Et il y a beaucoup de joueurs qui tombent dans cet écueil, dans ce défaut.
De se déconnecter de l'émotion du...
Ben, oui, mais à un moment donné, et de la chance, on est des privilégiés. Et va expliquer à des jeunes que putain, vous êtes des privilégiés quand même, vous faites ce que vous aimez. Il y a beaucoup de personnes qui tirent la tronche.
Mais ça, tu vois, ce que tu dis, c'est intéressant parce que je suis convaincu, et tu vas nous dire ce que tu en penses, que cette culture et même cette attitude de l'ensemble des salariés d'un club, que ce soit le joueur ou les gens de l'administrative, ça doit être imprimé par la direction. C'est-à-dire que c'est ton président et ta direction générale qui dessine cette feuille de route et qui tient les gens. Alors, responsable, c'est faux, mais le mot que je cherche, c'est accountable en anglais, de leur attitude vis-à-vis du projet un peu global.
Oui, surtout au début. Au début, c'est important parce que tu définis la culture d'une organisation par tes comportements plus que par ta parole, parce que c'est facile de parler. Ouais. Mais ce qui compte, c'est les faits. Et c'est les faits dans les moments difficiles, et dans le foot, il y a des moments difficiles. Donc, c'est à ces moments-là.
Tu l'as connu avec une descente.
Oui, je l'ai vécu comme si c'était plusieurs, mais ouais, effectivement, ouais. C'est une descente. Mais en fait, ce qui est important, c'est que tu ne réussis pas tout seul. Donc en fait, quand t'es dirigeant d'un club, ce qui est important aussi, c'est que derrière, de générer du momentum et de faire en sorte qu'il y ait d'autres personnes au sein de l'organisation qui deviennent ces garants de la culture. C'est pareil dans un vestiaire. Un entraîneur qui arrive et qui, derrière, il a pas ses garants pour tenir le vestiaire avec des joueurs, on va dire ce qu'on appelle entre guillemets les joueurs cadres.
Les cadres,
ouais. C'est compliqué pour lui, sinon il est très exposé par rapport à son vestiaire. C'est pareil dans le management d'entreprise. Si t'as une direction générale qui imprime le tempo, mais qui n'a pas réussi au niveau, on va dire, de son niveau juste en dessous, à générer également cette dynamique-là, il va être très très rapidement esselé, très très rapidement esselé. Donc c'est toujours collectif, et donc le job d'une direction, j'ai presque envie de dire un terme que j'aime bien utiliser, d'une certaine façon, c'est d'être architecte. Donc ça veut dire c'est de définir et de constituer petit à petit une équipe de direction et ensuite une culture d'organisation qui puisse être diffusée. Et presque d'une certaine façon, j'ai envie de dire ton job il est terminé dans une organisation, dans un club ou dans une entreprise, quand tu as créé presque les conditions de ton inutilité.
Ouais.
Donc globalement tu sers plus à grand chose.
Pour vérifier que les gens font bien leur travail, ils sont heureux, mais, ouais,
mais exactement.
Mais il y a aussi un autre truc, c'est qu'il y a le mimétisme, tu parles de ça, et c'est vrai que pour moi la culture d'entreprise ça va au-delà des mots, je le dis souvent, ça va au-delà des mots que tu écris dans les murs, sur les murs, allez, ambition, réussite. Ça, c'est que des mots.
Humilidad.
Voilà. Humilidad, voilà. Non, c'est vraiment le comportement que les dirigeants adoptent. Donc, après une défaite, l'analyser, pas faire la gueule, être toujours positif. Et ça, les salariés, ou alors les N-1, N-2, ou alors tout simplement les salariés du club, arrivent à admettre qu'effectivement, on a perdu, mais c'est pas la fin du monde. On met tout en place tous les jours pour arriver à avoir des résultats positifs.
Et tu fais bien de le dire, parce qu'il m'arrivait plein de fois à Lorient de perdre et faire la gueule. Hein. Ça m'arrivait plein de fois. Et d'ailleurs, j'en parle dans le livre 1 assez ouvertement, parce que ça fait partie aussi de mon parcours et de mon apprentissage. Et d'avoir eu la chance aussi d'avoir eu un entourage au niveau du club qui a pointé du doigt aussi ces choses-là, et ils me l'ont dit de façon très directe et m'a permis aussi de progresser.
Parce que faire la gueule, c'est différent d'être déçu. Faire la gueule, c'est un truc, c'est un comportement, c'est un mood pendant 2-3 jours. T'as perdu le match le samedi, le mardi, tu fais encore la gueule. Non, t'as perdu le match le samedi soir, tu peux être déçu, mais le dimanche, tu peux revenir en disant, purée, ce qui s'est passé hier, j'ai compris, j'ai analysé, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas concrétisé. Et donc, du coup, c'est analyser un petit peu le match avec un peu plus de hauteur.
Et alors, justement, ce qui nous intéresse dans le prochain, ce que je viens de dire, c'est ta méthode à Lorient, comment tu arrives à l'implémenter quand tu arrives, alors tu, pour rappel pour les gens, tu fais un passage en 2 fois à Lorient. Est-ce que du coup tu as eu lors de ton premier passage le temps d'implémenter certaines choses que tu retrouves quand tu reviens? Est-ce que c'est 2 personnes différentes parce qu'entre temps il y a eu McKinsey, donc la personne a changé, le professionnel a changé, ton approche est différente? Si tu peux nous expliquer un petit peu ton modus operandi à Lorient quand tu prends le poste de DG.
C'est une bonne question. Évidemment, lors de mon deuxième passage, c'est différent. Pour de nombreuses raisons, déjà, le contexte est différent. Parce que quand je rejoins le club en 2009, la première fois, il y a une énergie positive qui se dégage à tous les niveaux. Parce que Loïc vient de reprendre le club, le FC Lorient fait une très très belle saison et finit 7e de Ligue 1. Il y a un lien très fort entre le club et son territoire. Et donc, d'une certaine façon, je surfe sur cela. Et j'apprends aussi beaucoup de choses dans un rôle, j'ai envie de dire plus ou moins où je découvre, mais aussi j'ai le temps en fait d'avancer, de progresser, et je me rends compte aussi que je peux apporter aussi un peu de valeur, en particulier au niveau des outils utilisés, par exemple sur la partie financière. C'est tout bête, mais c'est juste s'assurer de mettre des outils de projection et d'accompagner le club pour définir une vision financière un peu plus large. J'ai aussi travaillé sur de la billetterie, sur des nouvelles méthodes, mais globalement j'ai envie de dire c'est aussi pour moi un vrai apprentissage, le premier passage. Le deuxième passage, c'est vraiment différent. Je reviens en 2015, Christian Gourcuff a quitté le club depuis un an. Le club est toujours en Ligue 1, et d'ailleurs sportivement fait une saison plutôt correcte avec une demi-finale de Coupe de France, perdue contre le PSG, 1-0. Il y avait pénalty sur Guerreiro. les supporters l'orientaient, savent de quoi je parle. Mais c'était un contexte différent. Il y avait un lien avec le territoire qui était moins perceptible, clairement. J'arrive dans une fonction clairement différente, plus senior, directeur général. Je m'occupais de la partie business, on était deux. Moi, je m'occupais de la partie business, il y avait un vice-président qui s'occupait de la partie sportive. Et là, quand j'arrive, clairement, je me rends compte qu'il y a un chantier. Qu'il y a un chantier parce que, déjà, moi, de m'adapter, et c'est pas toujours simple de s'adapter, facile à dire, mais je viens à nouveau de région parisienne, McKinsey, c'est pas simple de s'adapter à une PME comme ça, à taille humaine, dans une fonction différente.
Oui, et puis tu as aussi le parisien, que ce soit parisien de naissance ou pas, le parisien qui arrive avec son costume de McKinsey et qui arrive à Lorient, et avec tout ce que ça génère comme croyance aussi.
Tout à fait.
Je vais vous expliquer.
Bougez pas les gars, asseyez-vous, prenez un café.
Et souvent il y a non, tu vas rien expliquer du tout, tu vas voir. Non, je déconne.
Non mais en fait, et au final quand tu évoques la notion de méthode, en fait pour moi j'ai pas vraiment de méthode. D'ailleurs je trouve que c'est, faut être vigilant à penser qu'on a une méthode, parce que quand on dit méthode d'une certaine façon ça peut donner l'impression qu'on va pas s'adapter derrière, qu'on va juste venir pour appliquer quelque chose et qu'on va venir à appliquer. Sauf que ce que tu vas appliquer, alors non, c'est pas pareil que tu vas appliquer dans un autre club. Donc déjà je veux dire la première étape. J'ai envie de dire, la première attitude, à nouveau, c'est d'écouter. Et ensuite, c'est d'avoir des convictions. Bon, mes convictions, par exemple, c'est de dire, et on a pas mal parlé du résultat, c'est que le résultat dans le foot, bien sûr que c'est important, mais le résultat, c'est une conséquence. Et quand tu construis une stratégie club, au final, c'est pas différent d'une stratégie d'entreprise. Et ça veut dire que si tu changes de cap tous les 6 mois, tous les ans, tu n'arrives nulle part. Donc, pour pouvoir construire, il faut construire un plan qui soit sur la durée et dans lequel le seul plan, ce n'est pas que le résultat. C'est quoi tes principes de fonctionnement, que ce soit au niveau administratif et au niveau sportif. Et donc, comment est-ce que tu vas mettre dans la boucle l'ensemble de tes équipes pour construire un plan sur la durée, avec des piliers administratifs, des piliers sportifs. Donc, j'ai envie de dire qu'en termes de conviction, la première étape, c'est déjà d'écouter et ensuite de collectivement construire la vision. C'est quoi la raison d'être du club? Quels sont tes piliers stratégiques? Quelles sont tes valeurs? Vers où tu veux tendre? Comment tu vas mettre en exécution cette stratégie? Et si tu mets tout cela en place, alors l'objectif, c'est de tendre vers une dynamique de résultats, aussi bien business que sportif, parce que les deux sont intimement liés, les deux ne s'opposent pas. C'est pas le sportif contre le financier, c'est le sportif et le financier. Et ça aussi, c'est une autre croyance où parfois on peut aussi avoir, mais n'a pas lieu d'être. C'est toujours un équilibre de comment est-ce que tu arrives à piloter les deux. Et en fait, je pense que ce qui est important au départ quand tu arrives dans un club, c'est de construire, je veux dire, cette vision un peu plus longue. Autant le sportif et l'entraîneur de l'équipe principale va se focaliser sur une vision un petit peu plus court terme sur les résultats.
Match après match.
Mais malgré tout, il doit aussi s'imprégner de cette vision long terme, parce que s'il ne le fait pas, il ne va pas créer de connexion avec le centre de formation, ça va être plus compliqué aussi de développer des jeunes. Et au final aussi, un club de football, et on en parle souvent au niveau des transferts ou autres, on va voir la valeur des joueurs individuellement et autres, mais la valeur qu'on ne calcule pas et qui est tellement importante, c'est la valeur des relations qui existent entre les gens, entre comment est-ce que tu connais telle ou telle personne ou telle personne. Et ça, je trouve, désolé, ma réponse est un peu longue, mais j'ai envie d'insister quand même là-dessus parce qu'elle est importante, que quand j'étais à Lorient lors de mon premier passage entre 2009 et 2011, au-delà même de la qualité de Christian Gourcuff, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, ça a été la qualité des relations entre les gens à ce moment-là. Et en fait, les gens dans la cellule savaient ce que l'entraîneur voulait. Les joueurs, si les résultats étaient moins bons, ce qui n'était pas le cas dans la saison 2009-2010, mais ça avait été dans des saisons un peu suivantes, ne se posaient pas la question du maintien ou pas de l'entraîneur. Ce n'était même pas une question. Donc ça responsabilisait également beaucoup les joueurs en disant il y a une unité forte au niveau de la direction de ce côté-là. Et quand tu as ça dans les clubs sportifs, au-delà même de la qualité même de l'entraîneur ou autre, en fait, ça renforce énormément un projet sportif. Parce que les gens savent, il y a de la cohérence, on sent, les gens savent vers où on doit tendre. Il y a beaucoup de cohérence dans le projet sportif.
Il y a une question de temporalité. Alors, dans ce que tu as dit, j'ai retenu écouter, je vais rajouter observer les comportements des salariés. C'est pour ça qu'au tout début, en préambule, tu as dit que tu étais gardien de but. Et je te dis, quand tu es gardien de but, bah, tu es un peu spectateur. Tu analyses, tu regardes un petit peu les comportements. Donc, déjà, c'était un skill que tu avais déjà depuis tout petit, quelque part. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile, peut-être, pour toi de l'appliquer dans tes fonctions. Et après, c'est la temporalité. Effectivement, dans le foot, c'est court terme, moyen terme ou long terme. Court terme, on va l'appliquer sur des entraîneurs. Et de plus en plus, les entraîneurs de haut niveau. Ouais. On n'attend pas 3 ans. Quand tu arrives au Paris Saint-Germain, Manchester ou dans ces gros clubs, tu peux pas dire j'ai un projet sur 3 ans. Enfin, l'entraîneur, il peut pas dire ça.
47 matchs, la moyenne, c'est ça ?
C'est un an et demi, environ 18 mois.
Un an et demi, 18 mois. Donc, le dirigeant, il peut se dire ça. Il peut dire, il peut faire plusieurs plans. J'ai un projet de 3 ans, mais avec des... Tous les ans, à la limite, on fait une petite piqûre de rappel. C'est la temporalité. Tu parlais de Lorient, Gourcuff, il avait le temps, en fin de compte. Lui, il a construit le club, donc limite, on peut pas le virer du jour au lendemain. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué. D'où l'importance de s'adapter rapidement, d'observer et du coup, de kiffer quelque part les 47 matchs que tu peux avoir devant toi et que pendant ces 47 matchs, limite, que ce soit fun. Mais c'est la temporalité qui change. Donc maintenant, c'est assez complexe pour vous, les nouveaux dirigeants, de parler de projet de 3-5 ans, alors qu'au bout de 6 mois, si jamais ça se passe pas bien, les médias, les joueurs vont peut-être vous tomber dessus, enfin surtout les médias.
En fait, il y a des moments difficiles, à un moment donné, comme tu l'as dit, Edouard, au niveau des médias ou au niveau des supporters, à certains moments, pour ressentir un petit peu plus de pression, surtout si les résultats ne suivent pas. Mais la particularité que je mettrais par rapport à ça, c'est l'authenticité aussi de ton projet. Ça veut dire que si tu exprimes très clairement ton projet au niveau de l'environnement, de ce que tu souhaites à mettre en place, pour moi, ça permet de se décorréler légèrement pendant une période du résultat. C'est-à-dire que le club, il est derrière toi parce qu'il sait, et le club et l'environnement est derrière toi parce qu'il sait vers où tu veux tendre. Après, effectivement, si les résultats ne suivent jamais, il y a peut-être aussi un problème de performance à un moment donné. C'est pour ça que je parle plus que de résultats, je parle souvent de tendance de résultats. Ça veut dire être dans la dynamique. Par exemple, quand on est descendu en Ligue 2 à Lorient, on nous a beaucoup poussé à dire l'objectif, c'est de la remontée immédiate. Et on n'a jamais voulu le dire. Et parce que l'objectif, on ne sait pas si on va réussir à remonter immédiatement. C'est le football fait que personne peut te dire on va remonter immédiatement. Et je me méfie beaucoup des discours où tu surpromets juste pour te protéger sur le court terme. Et au final, bah, tu ne peux pas assumer. Et tout simplement, tu ne contrôles pas tout. Par contre, de te dire on doit être dans la tendance vers la montée, ça oui. Ça oui, parce qu'au final, si tu mets les choses en place, tu dois créer cette tendance-là. Tu dois créer cette tendance.
Il est bon, il parle, la sémantique est puissante. Parce qu'un objectif, c'est quelque chose que tu peux maîtriser. La remontée immédiate, tu ne le maîtrises pas parce qu'il y a 19 autres équipes qui veulent monter aussi. C'est problématique et tu peux te mettre le feu direct. Tu peux te le mettre le feu en interne et avec les supporters. C'est très bien.
Et surtout que tu ne le maîtrises pas complètement. Une montée, ça peut, par exemple, tu peux très très bien travailler au niveau d'un club. Peut-être parce que c'est un puzzle, hein, construire un effectif pour la montée, c'est complexe et tu peux faire beaucoup de choses très bien au niveau du club. Tu peux te tromper sur un poste. Si tu te trompes sur ce poste, ça peut te coûter tout ton objectif de la saison. Ça peut arriver. Donc, et l'objectif, donc, c'est accepter ton humanité et le fait que tu puisses faire des erreurs et accepter donc par rapport à ça que tu dois être capable d'avoir une organisation qui soit capable de se remettre en cause et de les modifier. Et donc à Lorient, c'est vraiment ce qu'on avait vécu d'ailleurs, ce qu'on est descendu en Ligue 2. Première année, on ne monte pas, on ne finit même pas barragiste d'ailleurs, ce qui est une frustration en interne parce qu'on pensait avoir un très bon effectif pour l'accéder. Mais néanmoins, dans la tendance, dans ce qui avait été mis en place en termes de conditions de performance, il y avait beaucoup de bonnes choses. De l'extérieur, c'était pas nécessairement très visible, parce que tu finis pas barragiste, et parce que dans la qualité de jeu, il y a des gens qui critiquaient, et ça fait toujours partie du football, ça. Mais par contre, dans les fondamentaux de performance au quotidien, on voyait une vraie cohérence. Deuxième année, on sent également cette tendance. Ça se joue vraiment à pas grand chose. On a eu beaucoup de blessures en plus, sur la deuxième partie de saison, qui nous coûte probablement la place de barragiste. Et la troisième saison, là, les choses se mettent un peu plus en place. Mais en fait, ce n'est qu'une continuité des deux premières. S'il n'y a pas les deux premières saisons de Ligue 2, la troisième saison ne se passe pas comme ça. Et le club remonte en Ligue 1. Et ensuite, pareil, vous regardez aujourd'hui l'évolution de Lorient, qui a eu deux maintiens difficiles, mais deux maintiens quand même. À Lorient, il ne faut jamais galvauder un maintien. Et aujourd'hui, il y a une certaine forme de continuité avec un entraîneur qui est issu du centre de formation et qui est au club depuis une dizaine d'années. Et dans l'effectif aujourd'hui du FC Lorient, à peu près, sur les 11 joueurs titulaires, il y en a 8. Ils étaient déjà là l'année de la remontée du club. Donc c'est là où on voit quand même qu'il y a aussi cette notion de temps long qui rentre en ligne de compte et de garder un cap, une structure, même lorsqu'il y a des moments difficiles.
Et l'autre chose qui m'a interpellé dans ton bouquin, c'est la notion d'anticipation. Qui revient beaucoup, notamment l'anticipation, pour être très factuel, sur que prévoit un contrat, les contrats des joueurs d'un point de vue du salaire, et tu parles de l'importance de la gestion de la masse salariale quand tu diriges un club, qui est un point extrêmement intéressant. Qu'est-ce qui se passe si on descend? Ça, c'est des choses qui sont prénégociées et préparées. Comment l'anticipation dans un football qui vit au rythme d'un match toutes les semaines, tu l'as fait accepter, tu l'as fait comprendre aux gens et tu apprends à tes équipes. Quand je dis à tes équipes, c'est autant les joueurs que tes équipes administratives, commerciales. Tu leur apprends une temporalité différente dans leur travail, à savoir, oui, vous avez des livrables, c'est indéniable, on a des sponsors à trouver pour la saison ou pour plusieurs saisons, on a un match à jouer ce week-end, mais... le projet, il est celui-ci à temps X, donc je veux que vous allouez du temps à préparer l'avenir. Comment on le fait accepter, ça ?
On le fait accepter, je pense, par les faits, parce qu'il est plus agréable de travailler quand tu as un temps d'avance que lorsque tu es toujours en train de subir ton quotidien. C'est assez désagréable, finalement, de subir son quotidien. On aime bien pouvoir avoir une certaine forme de contrôle et de maîtrise. Sauf qu'on imagine qu'on peut l'avoir, mais on ne sait pas ce que c'est. Je me souviens, lorsqu'en arrivant à Lorient, on fait un petit questionnaire en interne, et ce qui sort, où le club est très fort, c'est dans la gestion de l'immédiateté.
Je te comprends ça, parce que ça m'intéresse. Ça prend quelle forme, ce questionnaire? C'est-à-dire que l'ensemble des salariés reçoivent un PowerPoint à remplir
C'était un questionnaire, pas un PowerPoint.
Anonyme?
Un questionnaire. Oui, tout à fait. Parce que si c'est pas anonyme, derrière, ça peut être biaisé. Donc c'était anonyme. D'ailleurs, chaque année, on a fait ce questionnaire en interne, et chaque année, les résultats étaient partagés à l'ensemble des salariés.
Ça incluait les joueurs ?
Bonne question. Non, ça n'incluait pas les joueurs. C'est une bonne question. À refaire, je ne pense pas que je les inclurais à nouveau. D'accord. Je ne pense pas que je les inclurais. Pas parce qu'ils ne sont pas salariés du club, ils le sont à part entière. Ouais. Mais les questions qui se posaient, pour moi, étaient plus liées, j'aimerais dire, à des métiers de bureau plutôt qu'à des métiers plus où tu es au club. Mais c'est une bonne question. Et par contre, ce questionnaire était un bon outil pour... présenter les pratiques managériales, et même vis-à-vis de la direction, on se met aussi entre guillemets à nu, parce que ouais. C'est aussi une vision de comment les gens perçoivent le fonctionnement du club, et donc pour moi ça permettait derrière d'avoir un plan d'action. Et en fait, on jugeait autour de trois éléments notre évolution en tant que santé de l'entreprise. Le premier, c'était, est-ce qu'il y a un alignement sur vers où on veut tendre? Donc ça, c'est la première chose, et ça, on avait des éléments très précis avec des questions pour y répondre. Le deuxième, c'est, est-ce qu'on exécute bien la vision que l'on a? Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, parce que parfois dans un club de football, ça nous arrive aussi, est-ce qu'on est ouvert vers l'extérieur? Et j'en parle parce que parfois dans un club de foot, on peut avoir tendance à cause du quotidien, avoir la tête dans le guidon et pas s'ouvrir suffisamment sur l'extérieur, pas voir ce qui se passe dans d'autres clubs, pas voir ce qui se passe dans d'autres géographies, pas voir ce qui se passe dans d'autres sports, voire ne pas voir ce qui se passe dans d'autres industries. Donc si on respecte ces trois éléments qui sont, est-ce qu'on a une vision qui est partagée? Est-ce qu'on a une bonne qualité d'exécution? Et est-ce qu'on a une ouverture vers l'extérieur? Donc c'est ces trois éléments-là que nous étudions avec le questionnaire. Et derrière, là où on voyait qu'on avait des forces, on les mettait en avant, parce que l'objectif, ce n'est pas que de s'auto-flageller, hein, faut mettre en avant ce qu'on fait aussi très bien, et c'est un sentiment de fierté. Et deux, mettre en avant également là où on peut devenir meilleur, quels sont les plans d'action qu'on mettait par rapport à ça.
Et c'est dommage de ne pas impliquer les joueurs, voire les stateurs sportifs, dans l'exécution. Parce que l'exécution aussi, ta culture, enfin, quand si tu mets tous les gens de bureau, là, c'est ça, c'est bien, ils vont vouloir exécuter au jour le jour, mais c'est les joueurs aussi et l'entraîneur aussi qui doit être impliqué à ça. Parce que voilà.
L'entraîneur faisait partie du questionnaire.
Ah, l'entraîneur.
Oui. Tout le département sportif en faisait partie. C'était pas que pour l'administratif.
Ok, d'accord.
Mais pas les joueurs sur le terrain. Ni du centre de formation, ni de l'effectif professionnel. Okay. Mais tout le staff professionnel, cellule de recrutement, directeur sportif, tous remplissaient ce questionnaire.
Et pourquoi tu veux pas les impliquer ? Ou tu les impliquerais pas ?
Ils étaient impliqués dans... Enfin, on leur partageait ce qu'il en sortait.
Ok.
Ce qui en ressortait. Après, là, on peut peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais si vous regardiez le détail des questions posées, je pense qu'il y en a certaines qui s'appliqueraient assez peu à leur quotidien.
J'avais une autre question aussi, parce que c'est vrai qu'on parle de la fonction DG.
Écoute, ça s'est fait un peu par de façon fortuite, d'une certaine façon. Je travaille dans un cabinet aussi anglo-saxon dans le conseil dans le sport depuis un peu plus d'un an. Et le groupe Ineos est un groupe anglo-saxon également. Donc on a été mis en relation de cette façon-là. Et puis, on a échangé. Et c'est une superbe opportunité dans un club avec une ambition formidable, un actionnaire très, très costaud. Et franchement, c'est génial. J'ai très, très hâte de démarrer à temps plein début novembre.
Alternative football.
J'ai une question.
Vas-y, parce qu'après, j'en ai une pour toi.
C'est vrai ?
Ouais.
Pratico-pratique. Donc, dans ton futur club, donc tu vas écouter, observer, tu vas mettre en place certaines choses, tu vas te diluer, tu vas pouvoir communiquer avec tout ton staff, tous les salariés, ce que tu veux faire. La question, par exemple, vous avez un entraîneur, Favre, voilà, mais est-ce que tu participeras avec Flo Ghisolfi au recrutement éventuellement du personnel sportif, enfin d'un staff, d'un joueur? Est-ce que tu participes pour savoir si le joueur ou l'entraîneur éventuellement futur que Flo choisit puisse rentrer dans la vision que tu as et que tu veux pour le club?
Alors, deux commentaires par rapport à ça. Un, le diable est dans les détails, donc le mot participe mérite d'être précisé. Donc ça, c'est la première chose, donc j'y reviens ensuite. Et ensuite, la deuxième chose, moi, je suis un grand convaincu de l'intelligence collective. C'est-à-dire, je ne crois absolument pas à l'expert-clé qui gère tout et qui fait tout. Et de moins en moins, dans le monde dans lequel nous vivons, je pense qu'on est dans un monde très incertain, très complexe, on ne sait pas comment tout cela va évoluer, que ce soit dans le niveau du foot ou ailleurs. Et je pense que l'objectif de toute organisation, ce n'est pas de prédire le futur, mais d'être prêt à toute éventualité. Et la meilleure façon d'être prêt à toute éventualité, c'est d'avoir l'intelligence collective. Donc ça veut dire que lorsque l'on travaille avec Flo ou avec d'autres personnes, et c'est pareil aussi dans notre organisation, il faut qu'on soit en mesure d'échanger. C'est pas... Il gère, il pilote, il prend ses décisions tout seul, on discute jamais. Que ce soit aussi bien avec moi ou que ce soit aussi avec l'actionnaire, avec Dave Bradford, c'est un travail collectif. Et je pense que dans les conditions de performance qu'on va mettre en place, c'est que ce soit un travail collectif. Après, les gens sont responsabilisés, ils proposent, ils préconisent, ils avancent. Par contre, c'est toujours un travail collectif.
Ils doivent se justifier, par exemple. Ils décident de changer d'entraîneur parce qu'ils pensent que... Je dis pas, c'est fictif, c'est purement fictif, c'est pour avoir un cas d'école pour que les gens puissent comprendre. Vous êtes en concertation.
Oui, tout à fait.
Voilà,
dans toutes les décisions, bien sûr. De toute façon, la force d'un projet, c'est la cohérence du projet au niveau de la direction. Parce que si tu n'as pas d'alignement à ce moment-là, quand c'est dur, ça vole en éclats et ça dégouline dans toute l'organisation.
Je dis ça parce que ce n'est pas tout le temps le cas.
Non, mais c'est ce que je voulais noter sur ça, et ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, tu sais, sur le fait d'inclure les gens dans les réflexions, de les faire participer, etc. Il y a quelque chose que je voulais rappeler. Nous, on a la chance de travailler avec plus de 500 clubs sur 5 continents, et je ne crois pas avoir... vu deux modèles pareils, même dans les clubs de multi-ownership type Citigroup ou Red Bull Football, chaque club a quand même... Il y a une réalité du football qui est très difficile à combattre parce qu'elle est culturelle, c'est la verticalité. Je ne sais pas si tu l'as, toi, beaucoup rencontré à Lorient, mais et en tout cas, ce que tu proposes et ce que tu évoques vient un peu à contre-courant de ça, et je trouve ça très vertueux, mais... Traditionnellement, le foot, c'est un milieu où tu as des personnes très fortes dans un organigramme qui prennent des décisions descendantes. Et avec une, deux personnes dans chaque club, ça peut varier, ça peut être le DS, le directeur sportif, pardon, ça peut être le président, c'est rarement le DG d'ailleurs, ça peut être le coach, qui incarne un projet. Et les dérives du foot, c'est que la décision Et l'attention est polarisée autour de ce mec-là, et que tout part de lui et tout est vertical. La difficulté, je pense, d'introniser une nouvelle méthode dans le foot, c'est de casser ça. Et comme tu le dis, de faire des clubs de foot, des sociétés qui sont beaucoup plus organisées qu'elles l'ont été auparavant.
C'est du bon sens, en fin de compte.
Sur ce sujet-là, moi, j'ai personnellement pas du tout envie d'être donneur de leçons. On a une bonne méthode, les autres n'en ont pas, franchement. Il y a des clubs qui fonctionnent extrêmement bien, que ce soit en France et en Europe. Et je pense, comme tu l'as très bien dit, Mathieu, il y a différents modèles selon les différents types de clubs. Je pense que ce qui est clé, effectivement, comme tu l'as dit, c'est incarner un projet, et il faut des gens qui incarnent un projet médiatiquement, ça ne veut pas dire être le projet. C'est pas la même chose. Incarner n'est pas être. C'est différent.
Il est bon, je suis désolé, bravo.
Non, mais ça,
c'est de la sémantique.
Mais c'est important.
Ça doit être un claim, ça doit être un gimmick, mais tu as tout à fait raison. Et par exemple, excuse-moi, je te coupe, dans ton club, c'est ça le problème.
N'ouvrons pas la page.
Ok, petite parenthèse. Parce que là, vas-y.
Non, et tu vois, par exemple, un club qui a eu une très belle réussite pendant de nombreuses années, qui est par exemple un club comme Liverpool, je trouve que c'est un club qui a réussi à le faire de façon extrêmement brillante. Tu vois, extrêmement brillant. Et pourtant, on parle d'un des plus grands clubs du monde. Donc, c'est pas que ça n'existe pas. Ça existe. Il y a des clubs qui le font très bien aussi. Donc, je pense que je pense pas qu'on a inventé l'eau chaude. Je pense juste que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, Edouard, c'est du bon sens. Et c'est du bon sens. Et c'est pour ça que on est dans un secteur. En fait, c'est un secteur où il y a plein de tentations. Il y a de l'argent, il y a de la médiatisation, il y a tout ça. Et donc, malgré ton humanité et le fait de vouloir dire « moi je suis comme ci, moi je suis comme ça », à un moment donné, ces éléments-là, ça vient taper. Et ça vient te toucher, ça vient te toucher. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de jamais oublier et d'avoir des gens dans son entourage aussi qui te rappellent toujours « écoute, c'est bon, c'est un costume, c'est pas la réalité », donc ça c'est la première chose. Et deuxième chose,
le costume du lion,
les gens avec lesquels tu t'entoures, c'est pas seulement une question de compétence, c'est aussi beaucoup une question d'attitude. Et comme ça tu construis et tu fais des erreurs et c'est la vie quoi. Enfin, l'entreprise où tu fais pas d'erreurs, ça veut dire que tu fais rien. Et ne rien faire, c'est la plus grave des erreurs. Donc au final, voilà, donc c'est construire comme ça collectivement et sur 100 décisions. Je le dis dans le livre, mais je le vis vraiment comme ça, tu feras toujours des erreurs. Et peut-être tu prends 70 bonnes décisions, 30 pas bonnes. Et c'est avoir l'humilité dans ta culture d'entreprise et l'intelligence collective qui te permet de remettre en cause ces 30 moins bonnes sans t'entêter et de t'adapter pour les améliorer. Et comme ça, progressivement, tu vas tranquillement t'améliorer. Et puis aussi, comme dans toute entreprise, tu as des cycles. Et à un moment donné, tu as un cycle, tu le termines, tu sens peut-être que tu as un petit peu moins d'énergie et tu ne t'attaches pas comme si tu étais un arbre à un chêne de 300 ans avec tes racines et tu dis, maintenant, il est temps d'aller vivre autre chose. Et c'est comme ça, et la vie est faite comme ça.
Il y a quelque chose que tu dis dans ton livre sur lequel je voulais solliciter M. Cissé, c'est tu dis qu'on peut croire que le joueur, il faut faire attention justement à comment tu lui donnes un feedback ou faut prendre des pincettes parce que c'est le joueur, c'est quand même le centre d'intérêt, etc. Et tu dis, c'est à travers les équipes, les gens les plus à même de comprendre et d'accepter des feedbacks parce qu'ils sont jugés depuis qu'ils ont 10 ans. Est-ce que ça te parle, ça ?
Mais carrément. Ce qu'il me dit là, Fabrice, nous on est habitués. Ouais. Entre un jeune joueur qui vient d'arriver et qui te dit « Putain, Edouard, tu récupères aucun ballon, donc c'est compliqué, donc c'est une critique », alors qu'il vient d'arriver, ou un ancien, un entraîneur, parfois on faisait remonter à des entraîneurs, différents entraîneurs, que les entraînements n'étaient pas suffisamment intensifs, qu'il avait déconné dans sa communication, lui c'est la même chose. Nous on est habitués à ça, et puis en plus, ça va. Le pire c'est quand c'est les supporters qui n'ont jamais tapé dans un ballon, qui vont dire « Ah, t'as été nul, t'as essayé ceci », mais on accepte. Ou les chroniqueurs, on accepte ça, donc aucun souci avec nous. Et donc parfois, c'est pour ça que nous, on peut être froid aussi, radical, avec des personnes qui n'ont pas l'habitude d'avoir cette approche-là, mais nous, on sait que ça nous fait avancer. Parfois, ça nous détruit, ça peut nous détruire, mais ça nous rend plus fort. Donc oui, on est habitué à cette critique, à ce feedback.
Ouais, c'est
constructif d'ailleurs.
Non mais c'est tu vois c'est on a il y a le mythe du joueur hein, qui est très présent chez l'observateur et on a souvent l'occasion de le rappeler ici parce qu'on déconstruit complètement ça et on se rend compte de à quel point le joueur est acteur pas uniquement de sa carrière mais de son expérience au sein des clubs. Vas-y, une question
pour toi. Excuse-moi, je vois ce que tu veux dire parce que très souvent on dit il y a la phrase on peut rien leur dire. C'est pas qu'on peut rien nous dire, c'est que on nous dit trop souvent à un moment donné. C'est-à-dire que tu vois, c'est la critique quand tu fais un mauvais match, c'est pas qu'une personne qui nous dit qu'on a fait un mauvais match. C'est, on parle de dizaines de milliers, voire des centaines. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est des millions. Donc, à un moment donné, trop c'est trop, quoi. Ok. Donc, c'est pour ça choisir le feedback. Voilà. Mais c'est parfois usant. C'est pas, on peut rien leur dire. C'est bon, on a compris.
Et le feedback dans le football aussi, c'est surtout quand tu es à la direction d'un club, c'est complexe parce que le football, c'est un sport ultra complexe.
Et puis t'as le moment du feedback, tu donnes un exemple qui m'a fait marrer, c'est tu dis on rentre une défaite, je suis dans l'avion à côté du coach, je le bombarde de questions.
Ouais,
ça et pourquoi et si tu le dis après, tu dis je le referai pas parce que je sais que c'est avec ce coach-là, c'est pas le moment, c'est pas comme ça qu'il veut le véhiculer, etc.
Et c'est pas seulement avec ce coach-là, c'est juste c'est pas la bonne attitude d'une direction.
C'est
pas
chaud.
Exactement. Et c'est là où justement en tant que dirigeant, c'est là où c'est intéressant, c'est que tu fais ce métier par passion et pour les émotions. Mais aussi, d'une certaine façon, à certains moments, tu dois savoir contrôler tes propres émotions. Et moi, en plus, avec mon sang colombien, c'est pas toujours simple. c'est pas toujours simple. Mais ça fait partie du job. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train d'incarner ta fonction telle que tu l'es. Et ton rôle en tant que dirigeant, ce que je dis souvent aussi, c'est pas de se protéger, c'est de protéger. Et ça, c'est essentiel. Et ces attitudes-là que j'ai eues dans un avion et d'autres d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, Edouard, faire la gueule en rentrant dans un vestiaire, ça m'est aussi arrivé au début. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un environnement bienveillant autour de moi et cet esprit collectif de me dire Fabrice, fais attention à ça. Et au début, ça fait mal, c'est du feedback, hein, mais après, tu sais quoi ? T'as raison. Et comme ça, tu y travailles. Et en plus, derrière, tu peux avoir tendance à dire, je m'échappe, je le fais plus, je rentre plus dans le vestiaire ou autre.
Non, c'est pas ça.
La bonne
c'est
attitude. Pas exactement. Ouais. Tu l'affrontes, tu t'améliores. Et puis ensuite, tu poses la question. Vous avez senti ça, vous avez senti quoi? Et comme ça, tu t'améliores progressivement.
T'as raison, excuse-moi de te couper, mais t'as raison de dire affronter ça. Parce que parfois, tu perds 3-0, et là, tu vois pas les dirigeants. Parce qu'ils sont énervés, et du coup, t'as vraiment l'impression en tant que joueur qui fuit. Qui sont pas dans le même bateau. Par contre, quand ça gagne, je me rappelle dans un Sarlabo Club, quand on gagnait, il y avait tout le monde. Du maire à ceci, à cela. Ah là, il fallait
les deux maires. Les deux maires.
Il y avait tout le monde. Mais du coup, voilà, ce qu'on aime bien, nous, en tant que joueurs, c'est que ça gagne, ça perd. On est là, on est autant déçu que tout le monde, mais que c'est pas la fin du monde. C'est la vérité d'un match, et le match d'après, on va essayer de le gagner.
Je fais un rétro-pédalage, c'est la question à laquelle je faisais référence, que je voulais absolument te poser, parce que ça me paraît essentiel, ça touche à la construction de l'effectif, qui encore une fois est au centre des choses dans le football. Tu parles dans ton ouvrage d'une taille optimum pour un effectif, aux alentours de 24 joueurs qui incluraient 3 gardiens, avec un noyau de 16 joueurs, qui incluent les cadres et les joueurs qui vont donc jouer le plus, complété par soit des joueurs d'expérience qui acceptent de jouer un petit peu moins parce qu'ils sont en fin de carrière, soit des jeunes joueurs qu'on veut développer. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je voulais le confronter au regard de Monsieur Cissé. C'est quoi, toi, ton avis sur ça, qui a été dans des clubs? Est-ce qu'il t'est arrivé d'arriver dans un club ou d'avoir été dans un club et de regarder l'effectif et de dire on est trop, on n'est pas assez, il y a trop de jeunes, il y a trop de vieux, il y a trop de ceci, il y a trop de cela? Est-ce que tu as ce regard-là vraiment quand tu es joueur ou est-ce que tu te concentres sur ta perf avec le groupe qu'on a construit autour de toi?
Non, mais je regarde bien entendu ça. J'ai adoré cette analogie, cet exemple, parce que concrètement, il matérialise et il explique ce que j'ai ressenti et ce que tous les joueurs ressentent. Dire qu'un joueur va jouer tous les matchs ou que tout le monde part avec le même sur le même pied d'égalité, c'est pas possible. Donc très tôt, il faut un discours très clair. Tu l'as expliqué, je crois qu'il y a les études, c'est 16 joueurs qui ont 87% du temps de jeu. Et c'est exactement ce qui se passe. Et si tu expliques ça à ton groupe, il n'y aura personne qui fera la gueule. Je raconte une anecdote. Didier Deschamps, quand il me recrute à Marseille, à Monaco, il me dit... Edouard, est-ce que tu veux venir à Monaco? Je dis, ouais, je suis motivé et tout. Il me dit, tu partiras pas titulaire. Et moi, je dis, c'est normal, tu peux pas promettre à un joueur d'être titulaire. Il me dit, si, il y a des joueurs.
Mais pas à toi, c'est ça?
Il me dit, non, ouais. Il y a des joueurs qui vont partir titulaire par rapport à la saison qu'ils ont fait l'année dernière. Ils avaient gagné la Coupe de la Ligue, ils avaient terminé deuxième ou troisième, ils avaient super bien joué. Il me dit, il y a des joueurs, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils vont démarrer titulaire. Par contre, toi, si je te choisis, c'est que tu as les qualités pour renverser la tendance. Donc, les premiers matchs, je ne me pose pas de questions, je ne suis pas titulaire, ça ne me pose aucun problème parce qu'il a été clair avec moi. Et une fois que tu comprends ça, c'est ça. Et pour les jeunes, c'est la même chose. Donc effectivement, moi, j'ai compris et après, il faut juste savoir si tu es dans les 16 ou dans les 8.
J'enchaîne, on est proche du terrain, je veux rester pas trop loin avec la notion de performance d'équipe de performance, sans vouloir passer 2 heures dessus parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, mais ça revient dans ton livre également, et je voulais te poser une question. On a pendant très longtemps, et nous on l'a vu dans nos relations avec les clubs et dans les cycles de développement de nos relations avec les clubs, pendant très longtemps la performance était une prérogative staff. à savoir le staff, l'entraîneur et les gens qui l'accompagnent s'occupent de la partie performance. Ça inclut la nutrition, ça inclut le travail de la data, l'analyste, etc. Aujourd'hui, on est plus sur une tendance où, je pense à raison, la performance, donc le travail de l'analyse de la performance, que ce soit pour le développement des joueurs, l'analyse du travail de l'équipe ou le recrutement, devient une fonction club. À savoir, on crée ce silo dans le club qui va rester en place en fonction des arrivées, des départs des staffs. Avec toi, ton background, est-ce que tu considères effectivement que c'est là la place de la performance, à savoir une fonction club qui reste et qui crée une méthode? Et encore une fois, je prends des pincettes sur méthode, sur le terme méthode par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Ou est-ce qu'il doit y avoir quand même, je pense avoir, en tout cas j'ai mon avis sur la question, il doit y avoir quand même une grosse influence du staff sur ce travail lié à la performance spécifiquement.
C'est une question passionnante qui, à nouveau, je pense, dépasse le cadre même de la performance. Mais on peut, pareil, faire une analogie avec le monde de l'entreprise, qui est de se dire, quand tu es dans une organisation, est-ce que tu veux que la connaissance et l'expertise de ton organisation, elle appartienne à des gens ou elle devienne demain une connaissance collective? Et je pense que ton objectif, c'est que tu n'as pas envie que lorsque des gens quittent une organisation, que de perdre tout de suite tout le savoir. Et c'est pareil dans un club de foot. C'est la même chose. Donc, ce que tu viens de dire au niveau de la perf peut aussi s'appliquer dans des bureaux administratifs, au niveau, par exemple, de quelqu'un, je ne sais pas, qui détient toute la relation commerciale avec tes partenaires, et demain, il part, et tu perds la moitié de tes partenaires. Bim. Bah non. Comment est-ce que tu fais en sorte pour que ça devienne une force club et pas seulement une force d'un ou deux individus? On peut également appliquer cela pour, d'une certaine façon, pour des routines. Ça veut dire des processus que tu mets en place, des réunions ou autres, qui deviennent, j'ai envie de dire, culturels. Est-ce que ce sont des réunions qui sont mises en place par un dirigeant et le jour où ce dirigeant part, tout disparaît? Ou est-ce qu'au contraire, ça devient tellement fort culturellement qu'un nouveau dirigeant qui demain arrive,
il est obligé
de le mettre en place parce que c'est fortement culturel? Et en fait, on parle de la même chose là. Lorsque l'on parle de performance, qui est un terme très large, donc c'est très très large, je pense qu'au-delà de la perf, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on a envie d'avoir des connaissances qui sont club, ou est-ce que des connaissances qui appartiennent à certaines personnes, ou le jour où ils vont quitter l'organisation, vont juste complètement disparaître avec eux? Donc ça, et donc à partir de ce paradigme, ça ouvre le champ des possibilités qui est extrêmement large, qui est comment est-ce que tu fais en sorte pour que l'expertise soit un bien collectif et pas un bien individuel.
Mais c'est merci beaucoup pour ta réponse, et c'est un vrai sujet actuel, parce que c'est, encore une fois, je parlais de ma verticalité tout à l'heure, c'est aussi un vrai changement de culture pour le foot, parce que tu as l'habitude, quand tu recrutes un entraîneur et son staff, qu'il arrive avec l'ensemble de ses méthodes et de ses habitudes. Et donc la difficulté que vont demain avoir les clubs à dire au coach, alors pas de problème, on s'est mis d'accord sur ça. En revanche, tout ce qui est la nutrition, potentiellement la psycho, la data et la tech, ça, c'est le centre de la performance et tu bosses avec eux.
Tout à fait. Mais aussi, on n'est pas des robots, on est des êtres humains. Donc, ça veut dire que demain, tu es, par exemple, des expertises club très fortes au niveau de la nutrition, au niveau de la psycho, au niveau de l'intégration des joueurs dans ton effectif, au niveau de la vidéo, au niveau de la data, etc. Super, il faut continuer à développer ces connaissances-là. Mais quand un staff arrive, d'une certaine façon, il sait dans quel environnement il arrive et tu sais aussi pourquoi tu le recrutes et tu sais qu'il va être capable de s'insérer dans ton projet club. Mais ce staff aussi, avec sa propre diversité, sa propre unicité, va être capable d'apporter des choses. Donc c'est pas seulement, j'ai envie de dire, un peu à l'anglaise, plug and play, tu décroches, tu remets, mais également que ce staff va t'apporter aussi quelque chose, va te permettre de devenir toi aussi meilleur demain. À nouveau, on est dans un métier de relations humaines. Donc comment est-ce que, déjà, tu gardes donc cette notion expertise club, et comment avec ce nouveau staff, il faut qu'il se sente bien aussi, il faut pas qu'il se sente comme un alien dans un truc où il maîtrise rien du tout. Donc il faut aussi qu'il y ait une relation humaine qui se crée, parce qu'au final, tu es presque dans un fonctionnement presque matriciel, où tu vas avoir, donc, par exemple, au niveau de la performance, nutrition club, psycho-club, etc. Mais aussi, ces gens-là, d'une certaine façon, vont aussi rapporter au nouveau staff. Donc, il faut qu'il y ait aussi un lien humain qui se crée.
Que l'amalgame soit fait.
Exactement. Et si le staff sent qu'il n'a aucun lien ou n'est pas en mesure d'influencer, ça va être aussi très frustrant pour lui et il ne va pas pouvoir s'exprimer complètement. Donc, c'est comment tu arrives aussi à créer ce lien humain de relation, parce qu'à nouveau, on est dans des organisations humaines, pour que cela puisse fonctionner, tout en sachant que tu veux que l'expertise soit club et ce nouveau staff va te permettre, s'il y en a un nouveau, d'augmenter ta connaissance.
Je continue notre lien entre entreprise et football, qui est un peu notre dada ici. Sans rentrer trop dans la technique, parce que c'est pas l'objet non plus, mais sur la notion de risque, il y a une perception qui est la suivante, c'est que pendant, et je te dis ça par rapport à des expériences personnelles, hein, Très longtemps, le foot s'est considéré comme étant un peu au-dessus des risques systémiques. Et elle en a, pour le coup, en France particulièrement et dans le monde aussi, vécu. Elle a vécu le Covid, elle a vécu en France l'affaire Mediapro. Est-ce que tu penses que ces phénomènes-là, qui ont forcément impacté les clubs et leur économie de manière générale, a un peu soigné les dirigeants dans leur approche des risques et dans leur volonté de mieux se préparer à ce type de phénomène?
Comme tout à l'heure, je ne rentrerai pas dans donner des leçons aux dirigeants des clubs. Par contre, ce que je pense, c'est que le football est soumis aux aléas du monde et va le devenir de plus en plus et n'est sûrement pas un acteur séparé des aléas du monde. Donc que ce soit, donc tu parlais du Covid ou autre, mais il y a aussi tout simplement les problématiques RSE, où le football doit assumer également le fait que d'un côté, la performance est importante. Par exemple, moi j'ai aucun souci à dire, oui, vous savez quoi, l'équipe professionnelle, je les déplace en avion privé. J'ai pas de souci à le dire par rapport à ça. Parce que tout simplement, c'est nécessaire par rapport à la performance sportive. C'est nécessaire par rapport à la performance sportive. Donc, j'ai pas de souci par rapport à ça. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a cette spécificité-là qui est autour de la performance que tu ne peux pas mettre des choses en place autour de ça. Donc, je pense qu'il y a des problématiques RSE qui vont devenir de plus en plus importantes pour les clubs de football et les clubs sportifs dans leur globalité et qui doivent être prises en compte pas seulement comme un pan annexe d'une stratégie, mais au contraire comme une dimension essentielle de la stratégie club. Donc ça, je pense que ça, c'est un point. Ensuite, on est dans un secteur footballistique où les revenus ont beaucoup grandi ces dernières décennies. Je ne pense pas que ça soit indu. D'ailleurs, on l'a vu récemment avec l'évolution des droits télé, et pas que en France, ce n'est pas indu. Le football, c'est un sport populaire et il faut toujours être vigilant qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent, il y a des nouvelles tendances également qui apparaissent. Et c'est quelque chose qui se cultive. C'est quelque chose qui se cultive et je pense qu'il faut avoir conscience du côté populaire du football et de la notion d'accessibilité du football. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Il y a le temps long et le temps court. Le temps court, c'est aujourd'hui, c'est un sport où il y a énormément de revenus. Mais sur la durée, ça peut rester aussi un peu fragile. Et aussi, il ne faut pas oublier que je pense que si on aime le football, c'est parce qu'il y a une certaine forme d'incertitude. C'est ce qui fait la spécificité aussi de ce sport. Et le plus on tend vers la concentration des richesses, le moins cette incertitude existe et ça peut générer aussi, je pense à terme aussi, quelques frustrations. Donc comment est-ce qu'on arrive à créer aussi des conditions de compétitivité où différents clubs peuvent avoir leur champ? Je pense aussi que c'est important.
Je voudrais que tu... je pense que c'est important, parce qu'encore une fois, on est sur le cœur de l'activité, que tu nous parles un peu plus de la notion de valeur d'effectif et des facteurs de la valeur de cet effectif tel que tu les détailles dans ton ouvrage.
Oui, bon, la valeur d'effectif, déjà, d'un point de vue purement absolu, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que ça veut dire. Il y a des outils qui existent, j'en parle, tout le monde connaît, je pense, Transfermarkt.
Voilà,
mais bon, tout le monde, dès que tu vas parler de Transfermarkt, tu vas toujours avoir quelqu'un qui va hocher la tête et qui va dire « ouais, mais les valeurs ». Donc en fait, je pense que quand on parle de valeur d'effectif, il ne faut pas réfléchir en absolu, il faut réfléchir en relatif. Ça veut dire que ce n'est pas tellement le montant en tant que tel qui apparaît, mais plutôt ton classement par rapport à un environnement, c'est-à-dire par rapport à d'autres clubs. Et là, par contre, je pense que c'est des analyses qui font plus sens. Et effectivement, si on a une vision très analytique, un peu plus froide, on va dire, d'une certaine façon, de la performance d'un club, eh bien, la croissance de la valeur de ton effectif est un élément très important. Et si tu réfléchis autour de la valeur de ton effectif, je la distinguerai en trois composantes. La première, c'est ton effectif, pas seulement pro aussi, mais aussi jeune. Quelles sont les conditions de performance que tu mets en place pour qu'un joueur, à un instant T, ait telle valeur et demain puisse augmenter à avoir telle autre valeur? Ce n'est pas seulement individuel, c'est aussi collectif. Il faut qu'il y ait la performance collective. Tes joueurs se valorisent plus si tu finis 3e du championnat que si tu finis 16e. Donc ça, c'est la performance collective. Ensuite, c'est la qualité de ta cellule de recrutement. Et quand on dit cellule, à nouveau, ce n'est pas que la cellule. Pour avoir une cellule de recrutement de qualité, il faut être très connecté avec l'entraîneur, il faut créer des relations humaines. Donc ta capacité à identifier des bons profils, ta capacité aussi demain, si les joueurs doivent partir, à créer aussi de la valeur pour ton club. Et la troisième dimension pour ta valeur d'effectif, c'est ta capacité à mettre en avant également des jeunes issus du centre de formation. Si tu fais ces trois choses-là, eh bien en fait, tu crées les conditions de maximisation de la valeur de ton effectif.
Il y a plein de choses dont je pense on parlera offline de toute façon. Monsieur Cissé, est-ce qu'il y a un sujet en particulier qu'on n'a pas encore abordé et que tu voulais absolument aborder avant de rendre l'antenne?
Non, tous les sujets étaient cool, on a bien expliqué. Et je pense que le nouveau visage des dirigeants... Et celui-là, et puis je pense qu'il est c'est bien, ça fait du bien d'avoir des visages comme ça, j'aime bien ces visages-là, et donc je comprends entièrement et j'espère que les gens comprendront que c'est pour le bien.
Et puis sans effectivement sans rentrer dans le côté méthode qui peut paraître très square ou le dogme, l'idée c'est pas de dire qu'il y a une méthode qui fonctionne. L'idée, je pense, si on regarde un peu remédiation, c'est que bien entendu le football, comme tous les autres secteurs, c'est un secteur qui évolue. Il y a de nouveaux profils, des gens qui viennent de parcours divers et qui apportent des solutions à peut-être les limites d'organisation et de fonctionnement du football jusque-là. Peut-être moins de verticalité, on inclut plus les gens, on donne des mandats aux gens dans leur métier respectif, on se renseigne un peu plus pour dérisquer les décisions qu'on va prendre. Et ça, c'est plutôt, je pense, une tendance qui est encourageante.
Bah écoute, en tout cas, c'est passionnant parce que c'est la vérité d'aujourd'hui et la vérité de demain sera probablement aussi, continuera à évoluer. Et c'est ça qui est super, c'est une aventure et c'est pour ça que je trouve ça passionnant de pouvoir travailler dans un secteur qui, à la fois, je concilie mes deux passions, qui est d'un côté le football, passion depuis tout petit, et aussi le management d'entreprise. Et donc c'est extraordinaire et je vous remercie aussi pour l'invitation parce que la qualité des échanges, vraiment, les questions sont vraiment top. Donc je suis passé un super moment avec vous.
Partagé, vraiment, on s'est régalé aujourd'hui et on te souhaite que des bonnes choses avec l'OGC Nice. Beaucoup de réussite et beaucoup de plaisir et d'émotion, parce que tout commence avec l'émotion.
Et un gros merde.
Ouais.
Alternative Football. Alternative Football.
Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Comment ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.